C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Dans l'histoire avec un grand I, on revient souvent sur l'histoire de personnalités politiques, sur des conflits ou sur des inventions qui ont changé le cours du temps. On parle peu, finalement, d'exploits sportifs. Tentons de réparer cet oubli aujourd'hui en regardant de plus près l'histoire avec un grand I de deux Français. Jacques Balma, 24 ans à l'époque, et le médecin Michel Paccard, 29 ans, sont les premiers à terminer l'ascension des 4810 mètres à l'époque du Mont Blanc. C'était les 7 et 8 août 1787. Pour revenir avec moi sur cette première ascension du Mont Blanc, la fine équipe de l'histoire avec un grand I, bonjour Aurélie Labou.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Bellin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors première question pour démarrer l'émission, que connaît-on déjà de la vie de ces deux hommes, hein, Jacques Balma et Michel Paccard, qui étaient médecins?
Ils ne s'entendaient pas du tout. C'était compliqué. Ils étaient forts tous les deux, effectivement, dans ce domaine qui est l'alpinisme. Ils étaient les meilleurs de France, mais ils ne s'aimaient pas. C'était la compétition constante et c'était une compétition malsaine.
Une compétition malsaine et pourtant, ils vont monter une montagne ensemble.
Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, forcément, mais effectivement, ils ont dû faire énormément d'efforts.
Et ça a failli leur coûter la vie. Hein.
Oui.
Ça a failli leur coûter la vie. Alors, est-ce qu'on peut, avant de s'attaquer, enfin, de parler vraiment de l'ascension du Mont Blanc, revenir sur pourquoi est-ce que ces deux personnes se détestaient, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour expliquer ça?
Oui, Jacques Balma et Michel Paccard, deux forts gaillards originaires de Chamonix, qui sont, dès leur plus jeune âge, attirés par l'alpinisme, donc, et qui sont coutumiers de petits exploits par-ci par-là, comme par exemple, ce sont les premiers à réussir à gravir le Puy de Dôme. Le problème, c'est que, c'est là où naît la rivalité, c'est que les deux s'attribuent le record de temps pour gravir le Puy de Dôme. Et ça, partout. Ils passent leur temps à s'attribuer des records par-ci par-là sur qui réussira à gravir en le moins de temps possible tel ou tel pic ou dôme ou petite montagne ou que sais-je. Et qui ira gravir le premier, quelque chose qui n'a pas encore été gravi. Voilà.
Sans jamais préciser, effectivement, que toutes les aides qu'ont apporté leur duo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre l'a aidé, souvent sans faire exprès, il faut quand même le dire, parce qu'ils étaient tellement dans la compète que si une aide était apportée, c'était bien souvent sans faire exprès, et ils ne reconnaissaient jamais que c'était aussi grâce à cette aide qu'ils avaient réussi leurs exploits.
Mais oui, on pense à la colline de Boitou. Lorsque vous gravissez la colline de Boitou, donc qui est extrêmement pentue par endroits, il faut accrocher des mousquetons dans la roche, et donc forcément le premier qui passe accroche les mousquetons et le deuxième en bénéficie et lui permet de dépasser le temps du premier. Mais ça, croyez bien que jamais ils le mentionnent. Lorsqu'ils vont dans les journaux.
À quel âge est-ce que le duo commence à gravir des choses?
Très tôt, hein. Vous savez, à Chamonix, c'est un rituel. Hein.
Ouais,
Michel Paccard est un peu plus âgé. Lui, il a commencé à 5 ans. Et donc, c'était l'année de naissance de Jacques Balma. Et il s'est toujours vanté d'avoir gravi certains petits monts. Avant même que Jacques Balma soit né, ça a été... une bonne source d'inspiration pour lui, pour le charrier.
À Chamonix, d'ailleurs, il y a un rituel parmi les enfants qui aspirent à devenir alpinistes, qui est de gravir l'église du village. Et donc, chacun à leur tour, on gravit l'église de Chamonix.
On écrit son nom une fois qu'on est rendu en haut.
Voilà, et il n'y a pas beaucoup de noms, parce que c'est quand même,
oui.
C'est quand même une bâtisse.
Et à main nue.
Oui, à mon
avis. Alors, il y en a quand même un qui a utilisé, qui a d'ailleurs inventé le monte-charge à ce moment-là, parce qu'il ne voulait pas le faire à main nue, et donc il a fabriqué le premier monte-charge, ce qui était une triche, et évidemment, on a effacé son nom au blanco.
C'est vrai, Jacques Monte-Charge, inventeur du monte-charge.
Ouais, il était banni.
Ouais. Il n'a jamais refait d'alpiniste ensuite, mais
non.
Une grande carrière dans les affaires. Donc voilà, on grimpe cette église sans cordes, sans sécurité. Donc forcément, il y a quelques blessures, parfois quelques morts. Mais voilà, ce n'a pas été le cas de Jacques Balma ni de Michel Paccard. Et leur rivalité a commencé sur l'église de Chamonix, en réalité. Hein. Enfin, c'est les premiers temps qu'ils ont chronométré, c'était sur cette église.
Parce que Michel Paccard, à partir du moment où il a réussi à le grimper une fois, donc à 5 ans, il n'a pas arrêté, c'était son exercice, avant même d'avoir un coach en alpinisme d'ailleurs, et il a grimpé comme ça pendant des années. À partir du moment où Jacques Balma a eu l'âge de le faire, pareil, à 5 ans, parce qu'ils ont eu, la ville de Chamonix a eu énormément de problèmes avec des enfants qui voulaient le faire encore plus tôt, et donc beaucoup de décès infantiles malheureusement. Du coup, il y a l'âge limite de 5 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire avant 5 ans.
Donc ça, c'est une loi qui a été...
la loi de Chamonix.
C'est la loi de Chamonix.
Tout à fait.
Oui, Chamonix, c'est un arrêté...
Un arrêté municipal, finalement.
Voilà, c'est une des rares villes en France à pouvoir promulguer des lois qui sont propres à la ville. Encore aujourd'hui. Des lois farfelues, encore aujourd'hui, à Chamonix.
Il y en a quelques-unes.
Récemment encore...
Par rapport à la grande boulangerie.
Oui, par rapport à la grande boulangerie, ils font n'importe quoi. Ils abusent un peu, je trouve, mais effectivement.
Sur la taille des baguettes, non ?
Sur la taille de la boulangerie elle-même.
Sur la taille de la boulangerie elle-même, tout à fait. Il y a une réglementation qui est qu'on ne peut pas faire une boulangerie de moins de 100 mètres carrés.
C'est une histoire de portes ouvrantes parce que elles sont en verre et ça coûte trop cher de faire des petites portes vitrées. C'est vraiment compliqué d'un point de vue logistique et donc il y a vraiment une limite, c'est-à-dire
une loi farfelue.
Il faut que ça fasse au moins une certaine taille. Alors j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais
c'est
de l'ordre de quelques mètres, il me semble.
La taille, la porte,
Mais
on pense aussi que c'est parce que le maire de Chamonix était claustrophobe au moment où la loi est passée.
Ça expliquerait
beaucoup de choses. Très bien, revenons-en si vous voulez bien à nos deux protagonistes là, qui sont Michel Paccard et Jacques Balma. Donc dès leur plus jeune âge, ils sont en compétition pour gravir des choses le plus rapidement possible, être les premiers à gravir quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut faire un petit historique des faits marquants qui sont toujours attribués aux deux bonhommes aujourd'hui ? On a parlé du Puy de Dôme, on a parlé d'une colline. Est-ce qu'on a encore dans le monde de l'alpinisme, des faits marquants qui sont attribués à ces deux-là, à part la première ascension du Mont Blanc, bien entendu.
On peut parler de leur premier échec, qui est la dune du Pilat. La dune du Pilat était leur premier échec, ils avaient 14 ans pourtant, mais en fait, c'était une période qui était compliquée.
Michel avait 14 ans.
Michel avait 14 ans.
Jacques en avait 9.
En avait 9, tout à fait. Et pourtant, il s'entraînait depuis un moment, la dune du Pilat, il se trouve qu'à ce moment-là, forte tempête, les conditions météorologiques n'étaient quand même pas idéales.
Très peu de prise,
ça glisse.
Et ils avaient du sable dans les yeux.
Ils ont essayé de mettre des mousquetons, mais sur quoi ?
Ça ne tenait pas.
Non. Non, donc un échec de l'alpinisme classique face à ce problème. Une de leurs grandes réussites, c'est l'arbre de la vie, le séquoia de 150 mètres de haut en Norvège, qu'ils ont réussi à gravir jusqu'au sommet.
Oui, donc ils ne gravissaient pas que, on va dire, de la géographie, mais aussi des arbres, aussi des églises, vous avez dit.
Tout ce qui a un relief.
Tout ce qui se monte, quoi.
Tout ce qui peut être grimpé. Pour prendre de l'altitude, effectivement.
Le premier objectif, d'ailleurs, n'était pas sportif, mais panoramique.
Oui.
Ils voulaient avoir des belles vues.
Oui, puis Jacques était ornithorynque, il aimait les oiseaux.
Ornithologue, vous voulez dire ?
Non, ornithorynque.
Professeur agréé en ornithologie. et en tant qu'ornithorynque, il aimait voir les oiseaux et le fait de prendre de la hauteur, ça lui permettait d'observer ces magnifiques créatures.
Très bien. Donc montez pour observer les oiseaux. On se retrouve juste après la pause musicale.
La Plagne, le 2 février 2002. Ma pauvre chérie, j'ai perdu le Mont Blanc dans la neige, celui que tu m'avais offert. Tu n'imagines pas, Nadège, ce que j'ai souffert. J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige. slalomant du haut d'un pic. Et maintenant, sacrilège, je t'écris à la pointe pique. Ce n'est pas le premier que je paume, mais celui-là, j'y tenais tant. Je le réchauffais dans mes paumes. Je perdu au télésiège quand je l'ai enfourché d'un pont. Tous mes beaux projets se désagrègent. Je comptais sur ces sports d'hiver pour te pondre un grand truc, n'avais-je un vrai hit, un CD d'enfer. Me fuit d'habitude. La chanson, c'est du baccarat. Mais je sentais pointer le tube dans sa plume. Qu'est-ce qu'il a? Vous trouvez mon Mont Blanc dans la neige. Je me suis mis de fond. L'encre, ça se voit sur la neige. Faut dire qu'il fuyait ce con. J'y mettrai tout le temps, nadège. N'oublie pas que la neige fond. N'oublie pas, nadège. La neige.
J'ai perdu le Mont Blanc dans la neige de Claude Nougaro et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. On s'est quitté juste avant d'évoquer le fait marquant du duo Michel Paccard et Jacques Balma, qui est la première ascension du Mont Blanc. On a expliqué qu'il y avait une vraie compétition entre les deux dès leur plus jeune âge pour monter des choses plus vite que l'autre, plus haute, etc. Qu'est-ce qui les amène à se retrouver à monter le Mont Blanc à deux? Ça va être un peu le sujet de cette deuxième partie d'émission.
Oui, parce que jusque-là, en fait, ils grimpent les mêmes sommets, mais parce que par rivalité, quoi. Il y en a un qui grimpe le sommet en premier, donc l'autre essaye de le grimper plus vite, et ensuite, ou de trouver un autre sommet à grimper, que l'autre va essayer de devancer. Donc c'est vraiment une affaire de rivalité, mais ils n'ont jamais grimpé en même temps la même montagne, en réalité. Et là, il y a un événement qui va les forcer à s'unir pour grimper le mont le plus haut qui a jamais été grimpé à cette époque, c'est-à-dire le Mont Blanc.
C'est l'arrivée de Sandrine Cachou. Sandrine Cachou, qui est une petite fille originaire de Chamonix et qui, dès l'âge de ses 3 ans, alors que c'est formellement interdit, fugue de chez ses parents et monte l'église de Chamonix.
C'était un petit peu la petite rebelle de Chamonix, hein, vraiment, elle a fait parler d'elle. Et Jacques Balma et Michel Paccard sont terriblement énervés. Leur esprit de compétition qui existait entre les deux va se cibler sur Sandrine Cachou, qui sera l'ennemi commun. Et quoi de mieux pour rassembler des ennemis qu'un ennemi commun ?
Sandrine Cachou a 10 ans de moins que Jacques. Donc elle a, au moment où Jacques et Michel gravissent le Mont Blanc, elle a 14 ans. Et elle entreprend à 14 ans de monter le Mont Blanc.
Donc elle fait un premier essai avant Jacques et Michel, si je comprends bien.
Tout à fait. Mais en fait, alors on la connaît bien aujourd'hui, Sandrine Cachou, parce qu'elle a marqué l'alpinisme. Hein. C'est la première à avoir escaladé le Mont Everest. Hein. Avant ça, avant ces grands faits d'armes, elle voulait être la première à grimper le Mont Blanc. Et donc, elle fait une tentative à ses 14 ans. Alors, elle n'arrivera pas au sommet. Hein,
mais elle n'a pas démérité quand même. Hein, elle a gravi de nombreux mètres.
Et oui, elle est arrivée au camp 3, vers 3300 mètres de haut. Mais là, en entendant ça, Michel Paccard et Jacques Balma se sont terrifiés et se disent que si eux veulent marquer l'histoire de l'alpinisme, bah, c'est maintenant ou jamais, et ils n'y arriveront pas seuls, ils vont devoir s'unir pour gravir le Mont Blanc.
Il faut quand même... Enfin... C'est peut-être une bonne idée de rappeler pourquoi ça s'est arrêté à si peu de choses près. En fait, malheureusement, dans son ascension, elle s'est foulée le petit doigt de la main, ce qui fait qu'elle ne pouvait plus mettre ses gants parce que c'était trop douloureux et elle avait failli perdre sa main de froid. Hein, Et donc, elle a été contrainte de redescendre malheureusement pour se faire soigner, ce qui fait qu'elle est restée aussi à l'hôpital pendant un certain temps. Elle a perdu en capacité quand même d'alpinisme, il faut le dire. Et là, Jacques Balma et Michel Paccard ont sauté sur l'occasion. C'était l'occasion rêvée de pouvoir enfin rééquilibrer les compétences.
Et pourquoi elle s'est blessée à la main ? C'est dans le passage qu'on appelle aujourd'hui le passage de la Mimine, si jamais vous gravissez le Mont Blanc. C'est un passage extrêmement compliqué à passer tout seul. Et en fait, Jacques Balma et Michel Paccard le savent. C'est très compliqué de passer ce passage tout seul. Et elle s'est blessée en tentant de faire une figure extrêmement compliquée pour passer le passage de la Mimine, qui aurait en fait été beaucoup plus simple à deux. Et donc c'est pour ça que Michel Paccard et Jacques Balma tentent d'y aller ensemble, bah, parce qu'ils n'ont quasiment aucune chance de passer le passage de la Mimine tout seul.
Mais c'est un passage... ils ont appris, pardon.
C'est un passage très escarpé d'une, et qui est beaucoup de faune aussi. Beaucoup de troupeaux de chamois à cet endroit-là qui peuvent vous déséquilibrer si vous ne les nourrissez pas et que vous ne mettez pas quelque chose pour les divertir. Il faut... Tout seul, c'est dur. En fait, il faut vraiment penser à beaucoup de choses dans ce passage de la Mimine.
En fait, on ne peut pas à la fois gravir et s'occuper des chamois même moment. Quoi.
C'est exactement. Oui.
À ce moment-là, évidemment, Sandrine Cachou ne le savait pas quand elle a grimpé le Mont Blanc. Elle était la première à poser ses pas aussi haut sur le Mont Blanc.
Personne n'avait
et donc,
été à la Mimine.
Elle l'a appris à Jacques Balma et Michel Paccard. Et c'est comme ça qu'ils ont pu s'entraîner au niveau zéro à ce passage, avec les informations qu'elle a pu transmettre sur divers médias qui existaient à l'époque.
Lesquels ?
Il y avait notamment les lettres publiques qui étaient affichées un peu partout dans la ville de Chamonix.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ça marchait plutôt bien d'ailleurs, les gens étaient assez fans de ce média qui était le poster, comme on l'appelle aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
Et donc... Sandrine Cachou ayant informé le grand public de ce passage particulier, Jacques Balma et Michel Paccard sont particulièrement entraînés pour pouvoir faire le passage de la Mimine.
Et donc ils partent tous deux à l'ascension du plus haut mont de France. Et bon, ils y vont ensemble, mais leur rivalité n'est pas encore tout à fait éteinte. Hein. On sent que ce n'est pas que tout n'est pas enterré et qu'il y a quand même une volonté d'arriver le premier en haut. Donc au début ils commencent à marcher côte à côte, puis l'un commence à accélérer le pas, et donc l'autre accélère le pas. Et
c'est arrivé au passage de la Mimine que cette rivalité est exacerbée et que malheureusement c'est là où ils ont bien failli laisser leur peau. C'est que Jacques avait déjà prévu en avance de trahir Michel.
Oui. Et Jacques refuse de rester en bas pour nourrir les chamois. Donc c'est Michel qui doit s'y coller, mais Michel refuse car il va pas laisser Jacques monter tout seul et puis qui va nourrir les chamois derrière lui.
Et puis il s'était entraîné à le faire de cette manière. Chacun avait son rôle, quoi.
Jacques devait nourrir les chamois.
Jacques qui s'occupait des chamois, tout à fait.
Alors justement, ce fameux passage de la Mimine, on le retrouve dans pas mal d'œuvres d'art aujourd'hui, parce que cette ascension, elle a été reprise et reprise maintes fois. Il y a notamment un film qui en parle, qui s'appelle « Monter en haut » de Steven Spielberg, dans lequel il y a ce passage qui est un peu le centre vraiment de l'attention du film.
La traduction française du titre est nulle, « Monter en haut ».
Non.
C'est
une grosse catastrophe culturelle, on va le dire.
Bon, ça rend pas hommage à Steven Spielberg, mais bon...
Oui, mais « Monter en haut »,
on comprend l'idée, quoi, au moins.
Oui, mais...
On en écoute un petit extrait et on le commente juste après.
Ok, c'est le passage de la Mimine. T'es prêt, Jacques ?
Je suis prêt.
Allez, prends cette botte de foin et nourris les chamois.
Comment ça ? Non, 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 non. C'est toi qui nourris les chamois.
Tu plaisantes ou quoi?
Non, je le sens pas, Non, non, c'est toi qui vas nourrir les chamois.
Eh oh, te fous pas de ma gueule, on s'est entraîné en bas, d'accord?
Écoutez, on s'est entraîné en bas, tu as peut-être dit... C'est parce que je suis le plus jeune que je dois nourrir les chamois, j'y réfléchis sur la route, c'est non, ok? Michel, je te fais pas confiance, arrivé en haut, tu vas continuer l'ascension et tu vas aller gravir toi tout seul, tu vas tout seul.
Jacques, tu te fous de ma gueule ou quoi, petit peigne cul? On s'est entraîné, d'accord? C'est extrêmement dangereux, on peut y laisser nos vies. Je sais pas nourrir le chameau aussi bien que toi.
Je m'en fous, je commence à monter.
Mais t'es malade ou quoi? Tu vas jamais y arriver.
Chie, je vais réussir.
Attends, je nourrirai pas les chameaux, là, je m'en fous.
Écoute, tu nourris pas les chameaux, je nourris pas les chameaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Vas-y, grimpe, je te regarde.
Ok, je grimpe.
Je te regarderai tomber aussi.
Je commence à grimper.
Non, Jacques, arrête.
Mais les Jalois, je vais y arriver tout seul, pas besoin de nourrir les chameaux.
Non, Jacques, tu déconnes, il se rapproche, Jacques.
Mais ils me font pas peur, c'est ridicule.
Jacques, ils vont te pousser. Jacques, arrête.
Petit.
Jacques, descends, c'est bon, je vais nourrir le chameau. Jacques, arrête.
Ah, il m'a mordu.
Mais bien sûr qu'il t'a mordu. Attention,
mordu.
Jacques, accroche-toi.
Voilà, donc dans cet extrait, on comprend que leur première tentative pour passer le passage de la Mimine est un peu délicat. Jacques et Michel en font qu'à leur tête, et il n'y a pas de vraie collaboration du duo pour avancer à deux avec des tâches bien réparties, quoi.
Ah, effectivement, non. Dans ce film, on voit bien la relation. Je trouve qu'elle a été bien, bien retracée, la relation qui existe entre les deux. On va quand même utiliser le titre original, peut-être, qui est un peu plus intelligent, qui s'appelle « To the top ».
« To the top ».
Voilà. Ouais. Qui est un peu plus approprié, il me semble, et qui représente un peu mieux l'histoire.
J'aime bien ce film parce que, quand même, ils ont été chercher des acteurs français pour un film hollywoodien. Gérard Depardieu, c'est audacieux dans le rôle de Jacques.
Mais Jean Reno, ça marche bien pour Michel.
Mais c'est audacieux, mais ça marche bien aussi avec Gérard Depardieu. C'est vrai que.
Bon, alors, fort heureusement, Jacques survivra à sa chute.
Oui.
Il tombera sur un chamois qui amortira la chute.
C'était un chamois bienveillant.
Bien au bon endroit, quoi.
Non, mais il y en a des biens.
Oui.
Et suite à cet événement un peu dramatique, finalement, ils ont vu qu'ils auraient pu perdre à ce moment-là, ça aurait pu être un échec. Et ils vont se remettre en question et ils vont commencer à mettre en place de la communication non violente.
C'est le début de la CNV, hein.
Alors, ils testent, hein. Ils découvrent ça.
C'est pour ça qu'ils ont mis 2 jours à monter.
C'est ça, parce qu'en fait, là, à ce moment-là...
Ils se posent, ils font un break.
Voilà, c'est ça. Ils mettent les choses à plat, ils disent toujours avec, du coup, le système de communication non-violente qu'ils ont mis en place.
C'est ça.
Et ils ont écrit ce fameux manuel de communication non-violente d'alpinisme, qui est une communication non-violente assez particulière. Et
qu'ils ont écrit la nuit du 7, du
7 au 8.
Du 7 au 8,
du 7 au 8 tout effectivement.
Fait. Et qui est une communication qui est particulière parce qu'elle demande peu de paroles, malgré le fait que ce soit de la communication, parce que, on a haute altitude, peu d'oxygène, moins d'air, des difficultés à respirer, donc il faut économiser son air.
Oui.
Et donc c'est une communication, mais sans paroles.
C'est beaucoup de non-verbal. C'est très intéressant, je vous invite à lire le traité.
Oui. Des gestes de la main.
Donc après, c'est de poser un moment en bas du passage de la Mimine. Ils décident de camper, parce que la nuit commence à arriver. Après avoir nourri tous les chamois, ils plantent leur tente.
On le rappelle, il reste environ 1000 mètres à gravir.
À peu près 1000 mètres.
À peu près 1000 mètres.
Et le matin du 8... Jacques se réveille et voit que la tente de Michel a disparu.
Tente de Michel a disparu. Chacun avait sa tente.
Chacun avait sa tente, bien sûr. Et la tente de Michel a disparu. Et il a peur pendant un moment. Et en fait, Michel lui avait fait du café.
Oui.
Il s'était levé plus tôt, il avait plié sa tente et il lui avait fait du café. Donc
ça,
Michel...
c'est la grande anecdote qu'ils ont racontée une fois redescendu. Effectivement, ce doute de Jacques, cette peur, après avoir parlé de communication non-violente toute la nuit, est-ce que Michel lui aurait fait la crasse? En fait, non. Et ils étaient devenus bons amis.
Il lui adresse un petit signe de tête qui veut dire « je te respecte, toi et tes besoins ». Et Jacques lui répond un signe de tête équivalent.
Oui, un mouvement d'épaule de « j'accepte ton café ».
Ouais.
Tous les pas qu'ils franchissent vers le haut sont des pas qui n'ont jamais été faits. Donc la tentation est grande de grimper en premier et de fouler des pas qui n'ont pas encore existé. Et c'est ce qui arrive à la tête de Jacques à ce moment-là, quand il se réveille. Il se dit, Michel a cédé à la tentation. Et non.
Non.
Et non.
Non.
Non, parce que les pas qu'ils vont faire jusqu'au sommet maintenant, ça va être des pas l'un vers l'autre surtout.
Oui.
Ah, tout à fait, c'est une aventure humaine, hein.
C'est...
Mais d'ailleurs, ils en parlent très bien dans le livre qu'ils ont coécrit quelques années plus tard, qui s'appelle « Gravir l'amitié ».
Oui.
Et ils disent que, bah, effectivement, la plus haute montagne à surmonter, c'est la montagne de la rivalité. Donc, sur les coups de midi, ils arrivent en haut, hein, au sommet. Ouais. Mais surtout, ils sont bons amis à partir de ce moment-là. Il y a Jacques qui s'est foulé la cheville, enfin qui s'est pas foulé la cheville, qui s'est éraflé, qui s'est coupé à la cheville pendant l'ascension. Et Michel, médecin, va l'examiner et va lui permettre de terminer l'ascension.
En le portant.
Et en pansant la plaie avec un morceau de son pantalon. Donc ça veut dire que lui, il va avoir froid à la cheville pour que la plaie de son coéquipier ne s'infecte pas. Et ça s'infecte souvent très vite en haute montagne à cause de la neige.
Et heureusement que Michel était médecin, effectivement.
C'est vrai.
Plein de beaux symboles d'amitié, vraiment, cette histoire.
Donc voilà, ils descendent et puis ils sont à partir de là, ils sont plus rivaux. L'église est remise au centre du village à Chamonix, si vous me permettez.
C'est une belle année, c'est une belle métaphore.
Et ils vont d'ailleurs la grimper suite à cette ascension du Mont Blanc. À leur retour à Chamonix, ils vont grimper ensemble cette église. Et au lieu de marquer leur nom sur le haut de l'église, ils vont marquer le mot amitié.
Amitié, ce sera le mot de la fin pour cette belle histoire. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à la première ascension du Mont Blanc. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.